Aujourd'hui, 26 sous, c'est la fête, évidemment, de Saint-Louis. Tout le monde s'y attend. Il y a tellement de gens qui s'appellent Louis. J'avais mon frère aîné qui s'appelait Louis. Et c'est aussi la fête d'une sainte fort peu connue, mais aussi extrêmement intéressante. C'est la bienheureuse Mariam Bawardi. Vous direz, c'est un nom curieux. Oui, c'est un nom arabe. C'est une galiléenne comme Jésus. Elle est née en Galilée. Et elle est née en 1846. Et elle est morte au siècle dernier, assez jeune. Mais quelle jeune carmélite remarquable, hein? C'est une vie très proche de Thérèse d'Avila, la grande réformatrice du Carmel. Et cette jeune arabe, Melkite, elle appartient à l'église Melkite, mais elle est catholique, hein? Les Melkites sont catholiques. Et elle a donc été élevée en Galilée. C'est aussi la fête de nombreux autres saints, mais c'est aussi l'anniversaire du décès de mère Julie d'Haute, qui est morte en 1884 et qui a fondé les Petites Filles de Saint-Joseph, ces religieuses admirables que j'estime énormément et qui desservent la cathédrale, le grand séminaire et plusieurs autres institutions, qui ont fourni, j'en suis sûr, de nombreuses saintes cachées, dont on ignorera toujours le passage sur la terre. Ce sont des sœurs exemplaires. Alors, je commence donc avec Saint-Louis, pour vous dire au moins quelques mots sur ce saint étonnant qui était roi de France. Il se faisait appeler Louis de Poissy, tout simplement, comme Louis Capet se faisait appeler au moment de son procès et avant la décapitation à la fin du 18e siècle, Louis XVI, Louis Capet. Lui, c'est Louis IX, Louis de Poissy. Né en 1214 et mort en 1270. Ce futur Louis IX a porté pour la postérité le nom toujours de Saint-Louis. Il est connu depuis toujours comme Saint-Louis. Il a été canonisé très tôt. Hein. Il a été canonisé en 1297 par Boniface VIII. Et on a toujours parlé de Saint-Louis, et c'est incroyable la quantité d'endroits qui s'appellent Saint-Louis, de paroisses qui s'appellent Saint-Louis. Il y a à Montréal, d'ailleurs, une paroisse, Saint-Louis de France, et sans doute célébrera-t-on une messe en son honneur cet après-midi, à la messe de l'après-midi à l'église Saint-Louis de France, pas loin du métro Sherbrooke, hein, je l'espère. Alors, il doit à sa mère, Blanche de Castille, la pureté de son cœur, la qualité de son âme et la grande justice qu'il a exercée comme roi. Dès son enfance, Blanche de Castille, reine, lui a inculqué l'horreur du péché. Elle lui disait, et tout le monde connaît cette parole qu'on lui répétait quand nous étions jeunes autrefois, je sais pas si aujourd'hui on répète encore ça aux enfants, « Mieux vaut mourir que commettre un péché mortel ». Dans un sens, ça semble exagéré, mais dans un autre sens, c'est vrai. Car la mort de l'âme, la séparation de l'âme de Dieu, c'est très grave. Mais il faudrait savoir au fond ce que c'est qu'un péché mortel, et c'est très difficile à cerner. Car pour commettre vraiment un péché mortel, il faut vraiment être en pleine conscience de ce que c'est, du geste que l'on pose, ou de la pensée à laquelle on adhère du fond de son être. Et je me demande si c'est si facile que ça de commettre ce qu'on appelle vraiment un péché mortel. Enfin, les moralistes aujourd'hui, les plus brillants, les plus intelligents et les plus fidèles à l'Église, se posent cette question, qui est très délicate, très difficile à aborder. Je n'oserai jamais, pour ma part, aborder cette question, me sentant complètement incompétent. Salomon, dans la Bible, on le voit bien, était un roi étonnant. Eh bien, on peut dire que la sagesse de Salomon s'est retrouvée dans Saint-Louis. ça a caractérisé toute son existence. Il a eu un souci constant de justice. Pour lui, ce qui était immoral, et c'était contraire à la justice de Dieu. C'était surtout ça qui était immoral, ce qui était contraire à la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est d'être juste à l'égard des plus pauvres, des plus malheureux, des plus délaissés, des gens qui sont accusés faussement. Et Saint-Louis a travaillé à moraliser, peut-on dire, la vie publique, à la rendre plus saine, puis elle en avait beaucoup besoin à l'époque, comme elle en a toujours besoin au fond, car la vie morale, quand elle vient trop serrée, elle est pervertissante dans un sens, puisqu'elle donne de Dieu une mauvaise image. Quand elle est trop relâchée, elle donne aussi une mauvaise image de Dieu, et ne permet pas aux hommes de vraiment se sanctifier. Où est le juste milieu? Où est la sagesse? Alors Saint-Louis était très près de son peuple, il s'intéressait à ses problèmes. C'est Joinville qui a écrit, c'est son biographe, c'est lui qui a écrit cette intéressante vie de Saint-Louis, qui a connu Saint-Louis, n'est-ce pas, Joinville? Eh bien, il dit, maintes fois il allait s'asseoir au bois de Vincennes, sous un chêne, et tous ceux qui avaient des litiges venaient les lui soumettre. On peut dire de lui que c'était un roi vraiment chrétien. Il a contribué à consolider la monarchie, à en faire une tâche qui devient une vocation au fond. Mais si on se situe dans le temps, on peut être surpris parce qu'il lui a fallu faire des guerres, mais on peut croire en lisant l'histoire et en se renseignant vraiment que c'était toujours une nécessité, et que pour lui, c'était extrêmement regrettable de devoir faire la guerre. Et il a toujours, d'après tous les témoins, il a toujours combattu sans haine. Il a pris part, d'autre part, on le sait, à deux croisades, qui ont été d'ailleurs des échecs. Et lors de la première, il a été fait prisonnier. Et c'est au cours de la seconde croisade qu'il est mort de maladie et d'épuisement devant Tunis, en Afrique du Nord, en 1270. Mais on peut penser aujourd'hui, si on raisonne bien, si on réfléchit, là, ça se passe il y a tellement longtemps tout ça, n'est-ce pas, il y a 700 ans, que l'entreprise des croisades, et je vous en ai déjà parlé, c'est peut-être difficilement compatible avec l'esprit de l'Évangile, c'est sûr. Mais c'est un anachronisme que de porter un tel jugement de façon catégorique. Parce que de son temps, et pour lui surtout, Saint-Louis, l'amour du Christ justifiait étrangement, mais aussi très clairement, une aventure qui était, sous un jour le plus clair et le plus évident, une aventure héroïque. Ça prenait de l'héroïsme, car le but des croisades, c'était de délivrer le tombeau du Seigneur, qui était aux mains des musulmans, qu'on appelait à l'époque les infidèles, comme eux nous appelaient les infidèles. Je crois qu'ils nous appellent encore parfois comme ça. Mais cette façon de se traiter les uns les autres est un peu invraisemblable. Je crois que mieux vaut dire les fidèles de l'islam, tout simplement. Et alors donc, délivrer le tombeau du Christ, on peut se dire, mais c'est pas la peine. Bon, il l'avait conquis, laissons-le leur. Mais c'est que dans la mentalité de l'époque, c'était très, très important. Les pèlerinages, les lieux, étaient sacrés. Un lieu, ça avait de l'importance. Aujourd'hui, moi-même, je suis un peu de cette mentalité nouvelle. Bon, j'ai enterré mon père, je ne suis vraiment jamais retourné sur sa tombe pour prier. Je prie à l'église tous les jours pour lui. La même chose pour ma mère. La même chose pour mon fils l'an dernier. Je ne suis jamais retourné sur la tombe de mon fils. Mais je prie pour lui tous les jours, non seulement à la messe, mais à bien d'autres occasions. Alors, on n'a pas la même mentalité aujourd'hui. Et j'essaie, moi, personnellement, de comprendre et de me situer dans le temps. Le tombeau de Jésus-Christ, l'église du Saint-Sépulcre, construite par Constantin, on l'a vu l'autre jour lors de la fête de Sainte-Hélène. Tout ça était extrêmement important. Les lieux où avait vécu Jésus, c'était extrêmement sacré. Et c'est pour ça qu'ils ont entrepris ces croisades. car ils voulaient avoir le chemin libre pour pouvoir faire leur pèlerinage qui était immense. Ils partaient des pays nordiques, de l'Allemagne, de la Belgique, enfin des lieux de l'époque, hein, puis de la France, etc. À pied, hein, c'était fantastique ces pèlerinages. Alors ce roi, Saint-Louis, qui était un homme public, ça ne nous fait pas oublier qu'il était un très grand chrétien. Et pour lui, son baptême était extrêmement précieux. Et c'est pour ça qu'il se nommait lui-même Louis de Poissy, pour retrouver au fond son nom d'origine. Il faisait allusion à ce moment-là à son baptême. Et sa vie ascétique, c'est-à-dire une vie de discipline, une vie de contrôle sur son sommeil, sur sa nourriture, sa vie familiale aussi, qui était vraiment exemplaire, hein, sa charité, sa vie liturgique, sa vie de prière, tout ça était remarquable. Et il disait l'office, c'est-à-dire qu'il récitait son bréviaire comme les prêtres, là, comme un moine, et il assistait chaque jour à deux messes, oui, une messe pour y communier, une messe pour continuer sa prière. On dira, mais c'est exagéré. Il me semble que maman faisait ça très souvent quand j'étais jeune. Vous savez, les messes se succédaient de demi-heure en demi-heure quand nous étions jeunes. Ça commençait à 6h30, ensuite 7h, 7h30, 8h. Et le curé, les trois vicaires disaient leur messe. Alors, il avait aussi une grande dévotion à la Passion. Et c'est pour ça qu'il a fait édifier cette magnifique Sainte-Chapelle à Paris. Souvent, on va à Paris et on ne se rend pas à la Sainte-Chapelle parce qu'elle est un peu cachée, puis on l'oublie. Mais c'est un des plus beaux monuments du monde. C'est une chapelle gothique dont les vitraux sont si près les uns des autres qu'on a l'impression que la pierre qui les retient, c'est comme de la dentelle. Et les vitraux sont d'une splendeur. Il faut prendre un guide, je vous le recommande fortement. Allez vers le guide, même si c'est un homme très simple ou une femme très simple. Ces gens très simples font quelques sous avec ça. Mais souvent, ils sont beaucoup plus amoureux du monument qu'on leur a confié et désirent tellement nous expliquer dans les moindres détails les plus belles choses que c'est charmant, même avec leur accent un peu, pas nécessairement l'accent de Ménilmontant, mais un accent parisien un peu spécial. Mais moi, j'aime beaucoup ces gens très simples qui nous guident dans les monuments en France. Alors, pourquoi a-t-il construit cette Sainte-Chapelle? Ben, c'était pour abriter la couronne d'épines, qui est toujours conservée là-bas, dans le trésor de Notre-Dame, parce qu'elle n'est plus dans la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle est devenue presque un monument touristique. Et il y avait aussi des parcelles de la Sainte-Croix. Et alors, c'était un roi humble, devant le royaume des cieux. Pour lui, le seul véritable royaume, c'était le royaume des cieux, où le Christ était roi. On peut ajouter qu'il a dû, en raison de son style de vie, faire face à bien des critiques. Des critiques de qui? Ben, des critiques des grands de la cour, qui avaient l'impression que leur honneur, leur gloire et leur prétention étaient diminuées par la conduite du roi. C'est normal, le roi était humble. Ils étaient bien malheureux de pouvoir porter leur couronne ou leurs atours et leurs histoires. Et alors, je vous le rappelle, il a été canonisé en 1297 par Boniface VIII. Maintenant, Mère Julie Dhaut, qui, je pense qu'on prononce Dhaut, ça s'écrit D-A-U-T-H, mais la prononciation québécoise c'est Dhaut. Et alors, elle est née en 1825, puis elle est morte en 1884. C'est une Montréalaise d'adoption, une femme qui est née à Rigaud, au village de Rigaud. Elle s'appelait Rose de Lima. C'était sa fête, hein, ces jours-ci, Rose de Lima. Alors, Rose de Lima Dhaut, D-A-U-T-H, je vous le rappelle. Elle est née le 3 octobre 1825 à Rigaud, donc. Son père s'appelait Balthazar Dhaut et sa mère Chantal Faubert. Je suis sûr qu'il doit y avoir des Chantal Faubert que vous connaissez. C'est un nom de chez nous. Hein. Elle a perdu son père à l'âge de 7 ans. En 1855, à 30 ans, elle est venue demeurer à Montréal pour gagner sa vie comme couturière. Elle habitait tout près de l'église Notre-Dame. Et elle était dirigée par un sulpicien, M. Antoine Mercier, qui était vicaire à la paroisse Notre-Dame. Alors elle lui confie un jour ses aspirations. Elle entrevoit une mission à remplir auprès des prêtres. Et M. Mercier, le sulpicien, comprend. Il apprécie à sa juste valeur son idéal. C'est un homme de Dieu et il comprend chez cette femme très simple qu'elle puisse avoir un tel idéal. Mais on se demande comment accomplir cet idéal-là. En tous les cas, il lui accorde un encouragement bienveillant au début, puis il essaie de voir avec elle ce qu'elle pourrait faire. Et le 26 avril 1857, 2 ans plus tard, son âme, qui était remplie de feu, l'amène à venir s'agenouiller au pied de la statue de Notre-Dame de Pitié, à la chapelle des sœurs de la congrégation de Notre-Dame. Cette statue, ça doit dire quelque chose à bien des gens qui m'écoutent et qui ont fait leurs études chez les sœurs de la congrégation de Notre-Dame. Notre-Dame de Pitié. Et avec 2 compagnes, elle se donne donc à notre Seigneur. Elle promet de vouer sa vie entière au sacerdoce et à la sanctification des prêtres. Alors, Monsieur Antoine Mercier, sulpicien, préside cette première consécration qui marque le début de l'œuvre que lui-même a désirée de concert avec Rose de Lima Dot. Elle change de nom. Elle s'appelle dorénavant Mère Julie. Ça me touche parce que c'est un nom qu'on utilise beaucoup dans ma famille. Julie, c'est un très beau nom. Julie, Juliette. Elle venait de fonder, en somme, la première communauté canadienne, vouée exclusivement aux prêtres, et qui sera placée sous la protection de Saint-Joseph, et elles porteront donc le nom de Petite Fille de Saint-Joseph. Car ces sœurs-là recherchent ce qu'on appelle en langage spirituel la petitesse, c'est au fond l'humilité, la simplicité, le dévouement, l'oubli. Ce ne sont pas des vertus très très pratiquées aujourd'hui, mais elles, elles les pratiquent, et elles les vivent le sourire aux lèvres. Il faut aller à la maison mère, c'est absolument bouleversant. J'étais émerveillé quand j'y suis allé un jour. C'est absolument fantastique de voir ces femmes au sourire merveilleux. Ce sont les petites filles de Saint-Joseph qui sont situées sur la rue Julie, justement à Pierrefonds. 17 151 rue Julie, à Pierrefonds. Et il faut vraiment aller voir ça, aller prier avec elle. C'est un des beaux moments de la vie. À peine l'Institut était-il né, que les 2 premières compagnes de Mère Julie se sont retirées, puis le fondateur lui-même, M. Mercier, a été appelé à s'occuper de la construction du grand séminaire rue Sherbrooke. Au 2065 rue Sherbrooke, il faut aller voir la belle chapelle qu'il y a là. Le 3e mercredi du mois, le soir, il y a des prières pour les vocations et une messe. Ça vaut la peine d'y aller. On peut téléphoner au grand séminaire de Montréal pour savoir s'il y en a au mois de septembre. Alors, M. Mercier aussi a été envoyé finalement à Oka, où sont les Amérindiens, où les sulpiciens ont une maison là. En tous les cas, il est obligé de laisser la fondatrice seule. Peut-on dire au pied de la croix? Elle était au pied de la croix seule. Et sa vie est un long calvaire, c'est terrible. Mais heureusement, de nouvelles recrues se présentent. Elle est installée dans un 3e étage au coin de la rue Sanguinette et Montréal, dans un logis abominablement pauvre. Mais c'est là qu'elle fonde cette communauté, qu'elle reçoit ses premières recrues. C'est pas surprenant que les 2 premières soient parties, parce que c'était extrêmement pauvre. Alors, Monsieur Mercier est remplacé par un Monsieur Tambarot, Damien Tambarot, sulpicien, qui continue la réalisation du rêve de son confrère. Il consulte son confrère, Monsieur Mercier, d'ailleurs. Il donne à la communauté naissante une orientation authentique et sûre. Et bientôt, Mère Julie est démise de son poste de directrice, puis elle s'efface discrètement. On s'est toujours demandé pourquoi. J'ai pas trouvé pourquoi. En tout cas, elle continuera à être une sœur ordinaire, très fidèle. Elle ne quitte pas. Et elle appelle les prêtres, ses chers prêtres. Et pendant 16 ans, Mère Julie va tomber dans un complet anonymat. Ça arrive à beaucoup de fondateurs et fondatrices. Même Saint François d'Assise a été traité comme ça. Et après cette longue phase de purification puis d'effacement, elle était même aussi victime de calomnie. Ben, elle est éloignée, après 16 ans, mystérieusement, de la communauté. C'est terrible. Elle avait vécu une expérience mystique particulière. Et Mère Julie est congédiée par M. Tambarot, qui n'y croit pas. De concert, d'ailleurs, avec M. Mercier, le fondateur. Parce qu'ils veulent éviter, d'ailleurs, des dissensions dans la toute petite famille des sœurs, des petites filles de Saint-Joseph. Il écrit, d'ailleurs, à la nouvelle directrice, celle qui était directrice depuis déjà un bon bout de temps. Il dit, je viens d'apprendre que Sœur Julie a fait connaître à quelqu'un qu'elle part, qu'elle s'en va. S'il en est ainsi, ayez la bonté de la faire partir dès demain matin et sans laisser faire des adieux. Si tout n'est pas préparé pour aller à Ottawa demain, qu'elle se retire en ville jusqu'à lundi. On lui enverra tout son mobilier. Elle doit sortir sans tambour ni trompette. On n'y allait pas de main morte. Quelle sévérité! Quel manque de psychologie aussi, me semble. Et quels instants pénibles a vécu Mère Julie, qui avait consacré pendant 16 ans le meilleur d'elle-même à cette œuvre admirable qu'elle avait commencée. Et deux jours après son départ, mais la lettre qu'elle adresse à ses anciennes compagnes exprime toute sa douleur. C'est exprimé sans aigreur. Ça montre déjà la richesse de sa spiritualité et la profondeur de son cœur. Et au cours de l'année 1877, elle fait un voyage à Rome, qui avait été projeté depuis longtemps. Ça comportait un message que Dieu, disait-elle, lui demandait de porter elle-même au Saint-Père. Elle était éprise de vie intérieure. Elle cherchait tous les moyens pour vivre dans l'intimité du Christ. Mademoiselle Dot, elle était devenue Mademoiselle Dot, veut demeurer sous le même toit que notre Seigneur. Alors, elle entre à deux reprises dans ce qu'on appelle la classe des Madeleines du monastère du Bon Pasteur d'Ottawa. Ça montre bien son degré d'humilité, car c'est quelque chose de très humble. Ça montre aussi sa générosité sans borne, son grand désir d'union à Dieu. Et elle vit cachée dans ce monastère. Et elle souffre silencieusement. Sa maladie, ses infirmités l'accompagnent sans cesse, et elle ne pense qu'au Christ, à Jésus. Elle devient sœur Madeleine de l'Assomption et elle passe les trois dernières années de sa vie à l'infirmerie de ce monastère à Ottawa. Et elle arrive au terme de ses engagements et elle suit avec peine les exercices de la retraite. Puis elle renouvelle avec beaucoup de ferveur sa dernière consécration le 22 juillet 1884. Et à partir de ce moment, elle garde le lit jusqu'à sa mort qui survient le 25 août suivant en 1884. Et c'est là qu'on peut dire qu'elle est montée au ciel. On peut se demander où elle a puisé le courage dans toutes ces épreuves épouvantables. Sa vie entière, en somme, ça n'a été qu'un tissu de souffrance. Et elle a toujours conservé un calme serein et paisible. Toutes les sœurs des petites filles de Saint-Joseph avec lesquelles elle a vécu, qui étaient entrées à sa suite là, pendant les 16 années où elle était dans cette congrégation qu'elle avait fondée, s'entendre pour dire qu'elle était un modèle d'acceptation de tout. On pourrait discerner dans cette vie le secret, peut-être, qu'elle a dû entendre au jour où elle s'est donnée pour la première fois. Car il y a là une réponse de Dieu, peut-être, qui accepte que la fondatrice de cette congrégation se sanctifie totalement pour faire de cette congrégation ce qu'elle est aujourd'hui, une congrégation admirable. Elle avait avoué qu'elle s'est sentie certains jours poussée intérieurement à se vouer, à tout accepter, par amour pour Dieu. Les souffrances, qu'elles soient lourdes ou pas lourdes, elle les acceptait, parce qu'elle voulait que l'œuvre persévère pour le bien des prêtres. Elle s'était constituée comme une grande offrande pleine d'amour pour la cause du sacerdoce. Son idéal, elle l'a gardé jusqu'à la fin. On raconte d'ailleurs dans une vie que Mgr Tschimikel a écrite, l'héroïque mère Julie Dot, fondatrice des Petites Filles de Saint-Joseph, dans la collection Nos grandes figures. C'est une petite brochure de 60 pages, 65 pages. Et il y donne toutes sortes de détails qui sont saisissants. Absolument saisissants. Elle s'est installée assez tôt avec ses sœurs à la cathédrale, rue de la cathédrale, qui s'appelait aussi rue du cimetière, parce que ça conduisait au cimetière qui était au Square Dominion, hein? Car c'était un cimetière, le Square Dominion. Et là-bas, bien, sur semaine, elle allait avec ses sœurs à la cathédrale. La première messe était très très tôt, et parfois elles arrivaient, les portes étaient fermées. Mais heureusement, en peu de temps, les portes s'ouvraient. Comment ça se faisait? C'était tout simplement qu'un léger bruit les avertissait qu'on venait les rouvrir et elles entraient. Puis qu'est-ce qu'elles voyaient? Elles voyaient leur évêque, Monseigneur Ignace Bourget, qui retournait tranquillement à la station du chemin de la croix qu'il avait laissé, car il priait, faisait son chemin de croix très tôt le matin. Et il était content d'accomplir un acte de charité à l'égard de ces jeunes femmes, qui était absolument admirable et qui était pleine de bonté. Les petites filles de Saint-Joseph, qui sont, pour moi, l'une des congrégations les plus admirables du Québec. Il dit à ses troupes quelque chose d'extraordinaire. C'est un roi qui parle. « Mes amis et fidèles, nous serons invincibles si nous sommes inséparables dans notre charité. » Je ne suis pas le roi de France. Je ne suis pas la Sainte Église. C'est vous, en tant que vous êtes tous rois, qui êtes la Sainte Église. Quel extraordinaire roi. Bon, je vous donne un petit résumé d'une vie étonnante. J'ai trouvé ça dans une magnifique encyclopédie, c'est-à-dire c'est un dictionnaire des connaissances religieuses que m'a remis une sœur de Sainte-Croix, sœur Monique Bellil. J'en profite pour la remercier du fond du cœur. Quelle femme merveilleuse que cette sœur Monique Bellil qui s'occupe de moi et qui me donne toutes sortes de choses pour m'aider à faire mes émissions. Alors je trouve donc dans l'un des 6 volumes importants de cette collection, ce texte sur Louise Latteau, L-A-T-E-A-U. Louise Latteau est née en 1850, elle est décédée le 25 août 1883, au même endroit où elle est née, à Bois-Denne. Bois, comme le bois, et Denne, D-H-A-I-N-E, en Belgique. Et on lit, dit-on, sur le souvenir pieux, comme on disait à l'époque, écrit à sa mémoire, voici le texte, elle fut stigmatisée le 11 janvier 1868, et porta jusqu'à sa mort les stigmates de notre Seigneur Jésus-Christ aux pieds, aux mains, à la tête, aux côtés, à l'épaule droite. Pendant 800 vendredis consécutifs, les stigmates donnèrent du sang. 800 vendredis consécutifs, j'ai fait le calcul, ça veut dire plus de 15 ans. En fait, 15 ans et 38 semaines. Le texte continue en disant « Les extases qui avaient lieu tous les vendredis » se manifestèrent pour la première fois le 17 juillet 1868 et des témoins dignes de foi assurent que, depuis le 26 mars 1871, Louise vécut, écoutez bien ça, sans nourriture, sans boisson et sans sommeil. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Ça vous rappelle Marthe Robin, qui est décédée, si je me souviens bien, en 1982, donc il y a moins de 15 ans, et qui vivait dans les mêmes conditions, sans nourriture, sans boisson et sans sommeil. C'est prouvé, ça. Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires. C'est sérieux. Le texte continue d'ailleurs. Elle reçut chaque jour la Sainte Eucharistie. Bon, c'est la fin de ce texte. Il faut dire que l'Eucharistie, pour elle, c'était son unique aliment. D'ailleurs, elle avait confié au père Séraphin, quel étrange nom pour un prêtre, Séraphin, c'était son directeur, que lorsqu'elle allait à l'église pour communier, elle avait l'impression que son corps pesait énormément, était très lourd. Et puis, elle se sentait plutôt faible. Et qu'au retour, après la communion, après avoir communié au corps du Christ, cette lourdeur, cette pesanteur était disparue, de même que toute la faiblesse, elle était comme énergisée. La nuit comme le jour, hein, elle jouissait de la contemplation de Dieu. Puis, elle accomplissait toutes ses tâches quotidiennes. Elle s'occupait des plus pauvres, des plus délaissés. Elle avait une énergie étonnante grâce à l'Eucharistie. Et pendant les 7 années de maladie, elle a souffert atrocement. Tous les témoins s'entendent pour dire qu'elle avait un doux sourire sur ses lèvres. Et c'est le cardinal de Champs, cardinal de la région, archevêque de Malines, qui avait déclaré au curé de Boisden, « Vous avez une sainte dans votre paroisse. » Ce cardinal des Champs, archevêque de Malines, n'était pas n'importe qui. Il est décédé, d'ailleurs assez mystérieusement, un mois après Louise Latour, qui elle... il est décédé le 28 septembre 1883, un mois après Louise Latour. C'était un rédempteuriste. Il a laissé des œuvres écrites énormes, 17 volumes complets. C'était un homme qui défendait la foi et qui attirait à la foi catholique beaucoup de gens par une présentation de l'Église qui les attirait. Il avait ce don-là. Il était archevêque de Malines. Comme le cardinal Sunens, que nous avions interviewé à Malines, le cardinal Sunens. C'est Léon XIII qui disait de cette Louise Latour, ce qui se passe à Boisden est un fait merveilleux. En somme, ils ont établi une commission qui avait été envoyée par l'Académie royale belge. C'est ce qu'il y a de plus sérieux en Belgique, ça, sur le plan scientifique. Et ça comprenait des incroyants aussi bien que des catholiques. Hein. Ils se sont livrés à des expériences minutieuses sur Louise Latour. Ils ont conclu ce qui suit, la stigmatisation et l'extase de Louise Latour sont des faits réels, purs de toute fraude. La science médicale n'en fournit pas l'explication rationnelle. Fin de la citation. En somme, s'il y avait stigmatisation et extase, il y avait aussi bien d'autres choses extraordinaires, comme la lévitation, c'est-à-dire son corps levé devant les gens. Vous direz, ça n'a pas de sens, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une quantité de témoins qui ont vu Saint Jean de la Croix et Saint Thérèse d'Avila, chacun du côté de la grille qui gardait les carmélites au cloître, là, ils levaient tous les deux pendant qu'ils discutaient de choses spirituelles. Ça a été vu bien des fois, ça. Le phénomène de lévitation est prouvé dans l'histoire de l'Église. On me dira que j'exagère, mais pas du tout, j'en suis convaincu. Lisez sérieusement les vies des saints, vous verrez que des témoins sérieux nous rapportent ces faits-là. Elle jouissait aussi de ce privilège au nom très étrange, la hiérognose. Comme Philippe Néri, comme François de Borgia, dont je vous parlerai un jour, c'est-à-dire qu'ils peuvent, ces saints-là, distinguer l'état de, disons, de grâce et de bonheur qui existe chez quelqu'un, tout de suite, comme ils sentent même des parfums. Oui, ça existe, c'est prouvé. Bon, on n'est pas obligé d'y croire, évidemment. En tous les cas, de toute façon, on n'a jamais confirmé chez les autorités ecclésiastiques que Louise Latour était une sainte. Hein? Mais c'est tout de même un phénomène étonnant. Et maintenant, nous passons à Mariam Bawardi, cette jeune arabe qui est née à Abilene, non loin de Nazareth, le 5 janvier 1846. Elle était d'une famille catholique de rite grec. Ses parents, Georges Bawardi et Mariam Shahin, avaient perdu, imaginez, 12 garçons en bas âge. Ils ont fait le pèlerinage de 170 kilomètres jusqu'à la grotte de Bethléem. Ils ont demandé à Jésus, enfin, de leur donner une fille, en promettant de l'appeler Marie. Et au baptême, qui a été célébré en même temps que la confirmation, n'est-ce pas, on donnait la confirmation, on donne toujours la confirmation selon le rite melkite dans l'Église catholique, là. Alors elle était appelée Mariam, qui est le vrai nom de Marie. Elle avait un peu plus de 2 ans quand son père et sa mère sont morts, à quelques jours de distance, et elle était orpheline, donc, avec son petit frère Boulos, qui était né après elle. Alors, elle a été adoptée par un oncle, puis elle a grandi dans l'amour de Dieu. Après des requêtes répétées, elle a obtenu vers 8 ans de se nourrir de l'Eucharistie, déjà, comme née jeune. Et en 1854, elle a suivi son oncle en Égypte, à Alexandrie. Son oncle, à son insu, l'a fiancée au frère de sa femme. Elle avait 12 ans. Quand elle a appris ça, Mariam a déclaré ouvertement qu'elle n'avait pas l'intention du tout de se marier. Elle était saisie, disait-elle, par le Christ. Après avoir prié devant l'imminence des noces avec le Christ, elle a coupé ses cheveux. Elle s'est exposée ainsi à toutes sortes de tortures physiques et morales. On s'est moqué d'elle, on l'a traitée de folle. Mais dans sa souffrance, cette jeune adolescente a voulu envoyer de ses nouvelles à son frère Boulos. Elle s'est adressée à un ancien domestique de son oncle qui se rendait à Nazareth. Et celui-ci, son oncle, apprenant le martyr qu'elle subissait, l'a invité à passer à l'islam. Imaginez, se convertir à l'islam. Sans une minute d'hésitation, l'enfant a protesté. Elle a dit « Je suis fille de l'Église catholique, apostolique et romaine. Et avec la grâce de Dieu, j'espère persévérer jusqu'à la mort dans ma religion qui est la seule vraie. » Alors la réponse était un violent coup de pied. Elle lui a amené un violent coup de pied qui était suivi d'un coup de cimeterre, c'est-à-dire d'une espèce de d'épée très lourde. Ça l'a blessée gravement à la gorge. Elle était inanimée. Elle a été enveloppée dans un drap et déposée dans une petite rue obscure. Ils l'ont abandonnée là. Elle a repris vie dans une grotte où on l'avait traînée. Elle était soignée par une religieuse, dit-elle, qui était vêtue de bleu, et qui lui a rendu la vie, qui lui a prédit l'avenir en quelques mots. Et Mariam a toujours été convaincue que cette religieuse, c'était la Sainte Vierge. Elle célébrait d'ailleurs avec solennité la fête de la Nativité de la Vierge, le 8 septembre. C'est l'anniversaire de ses noces de sang avec le Christ, disait-elle, et de l'intervention maternelle de la Sainte Vierge. Une fois guérie, elle a été aidée par un franciscain. Et elle a commencé à 13 ans à Alexandrie, ce qui est devenu sa profession ou son métier, si on peut dire servir. Elle faisait la domestique à Alexandrie, puis à Jérusalem. Et là, au Saint-Sépulcre, elle a fait vœu de chasteté perpétuelle. Elle a servi aussi à Beyrouth, au Liban. Elle était toujours prête à quitter la meilleure famille où elle s'est trouvée à son aise pour aller en servir une autre dans la misère, car c'est les pauvres qui l'attiraient. Elle est même devenue mendiante. Et en 1863, avec la famille Nagyar, elle a quitté le Liban pour Marseille. Et là, elle a entendu l'appel, un appel très très fort au fond de son cœur pour se consacrer à Dieu. Alors là, les filles de la charité ont été prévenues contre elle par une personne qui l'employait et qui voulait pas la perdre parce que c'était une excellente servante. Alors les filles de la charité l'ont refusée. En 1865, elle avait 19 ans, elle a réussi à l'entrée au noviciat des Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition. Oui, c'est une communauté qui existe en France, les Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition, mais ces sœurs-là l'ont pas admis à la profession. Elles étaient épouvantées par les phénomènes extraordinaires que Mariam, elle, regardait comme une espèce d'infirmité. Car elle avait des ravissements, des visions, et le 29 mars 1867, elle avait 21 ans, elle a reçu les stigmates, comme Saint François d'Assise. Mais ils sont disparus ensuite pendant un an. Par obéissance, disait-elle, à la maîtresse des novices. Mais ils sont réapparus au carême de l'année suivante, la maîtresse des novices le permettant. Depuis le 14 juin 1867, Mariam était entrée au Carmel de Pau, P-A-U, là, dans les Basses-Pyrénées. C'est pas loin de Lourdes. Elle y a pris l'habit sous le nom de Marie de Jésus crucifié. Elle ne savait ni lire ni écrire. Elle avait rêvé d'être sœur converse. Vous allez voir qu'elle va devenir une sœur extraordinaire. Elle voulait seulement servir. Et elle disait, « La pensée que je suis rien me fait tressaillir de joie. C'est si beau de n'être rien. » On retrouve les petites filles de Saint-Joseph. « L'humilité est heureuse de n'être rien. » Elle ne s'attache à rien, rien ne l'ennuie. Elle est contente, heureuse, heureuse partout, satisfaite de tout. Oh, bienheureux les petits. Oh, ça peut faire rire bien des gens qui pensent que la gloire est dans les honneurs et les décorations et tout ça. Pas du tout. Ce n'est pas là le bonheur. Hein. En somme, c'était la petitesse évangélique qui l'a caractérisée. Elle était comblée de dons mystiques les plus extraordinaires, mais elle est demeurée toujours simple et la dernière de toutes, heureuse de se donner. Et cela même à partir de 1871, quand les stigmates ont commencé à saigner fortement du mercredi soir au vendredi matin. Sœur Marie cherchait à tout cacher, mais sa maladie, comme elle disait, elle appelait ça sa maladie, elle avait peur que ce soit un peu contagieux, elle avait peur qu'il y ait de l'infection là-dedans, et ça ne laissait pas toutes les libertés de mouvement qu'elle aurait désirées. Et elle ne pouvait pas être disponible autant qu'elle l'aurait voulu pour servir la communauté. Mais à un moment donné, c'était le départ pour l'Inde. Il fallait fonder un Carmel en Inde, avec un petit groupe de religieuses qui était destiné à Mangalore. Alors, c'était le premier monastère cloîtré, hein? Cloîtré dès le début. Alors, elle y est envoyée, puis elle y mène là une vie de don total. Elle devient une fondatrice de monastères comme Thérèse d'Avila, la grande réformatrice du Carmel au XVIe siècle. Elle est heureuse de l'extrême pauvreté qui lui permet de se sentir à communion avec les hindous les plus pauvres, comme Mère Thérèse. Hein. Elle soutient en se sacrifiant elle-même toute l'ardeur missionnaire qui la possède. Et cependant, en 1872, après avoir émis ses vœux, elle doit rentrer en France à cause de certaines incompréhensions, parce qu'elle est tellement étrange, étrange avec ses phénomènes. Hein. Et aussi, d'ailleurs, il semble que, comme pour le curé d'Ars, il y ait eu quelques attaques diaboliques. Bon, on peut trouver ça curieux. Elle s'insère dans sa communauté d'origine, à Pau, près de Lourdes, avec joie. Elle demande toujours avec insistance la faveur de servir. C'est sa grâce, c'est sa vocation. Elle dit « Je n'en peux plus, l'amour me brûle, me consume. » J'aime bien ça, elle dit « Je grille. » C'est une exclamation qui s'applique à son service. C'est l'expression de son amour. C'est justement en vue d'un service que Dieu voulait pour elle que Sœur Marie, carmélite encore en 1872, confie à ses supérieurs que le Seigneur voulait un Carmel à Bethléem, en Terre Sainte. Elle assurait que ce qu'il se ferait malgré toutes les difficultés. Et en effet, avec la collaboration généreuse de Berthe d'Artigot, toutes les oppositions sont vaincues par l'intervention directe du pape Pie IX en août 1875. Et alors, Sœur Marie fait voile pour l'Orient avec 8 autres religieuses après avoir reçu à Lourdes la bénédiction de Marie Immaculée. Et le 6 septembre, elle était à Jérusalem. Le 11, elle arrive à Bethléem. Et là, elle est l'architecte, puis la directrice, écoutez bien ça, des travaux de construction du nouveau monastère qui est édifié en forme de tour, comme une grande, grande tour sur la colline de David. Vénérée et aimée des ouvriers, Sœur Marie a été capable de presser les travaux, si bien que les carmélites pouvaient entrer dans l'édifice très pauvre, encore en chantier, le 21 novembre 1871, j'ai eu la chance d'aller au Carmel de Bethléem. J'y assistais à la messe 2-3 fois. Oh, que j'ai aimé les sœurs, là j'en ai vu à travers la grille, des sœurs merveilleuses qui m'ont confié d'ailleurs un message pour le Carmel de Montréal. Dans ce Carmel très simple, notre petite arabe, comme on l'appelait, a vécu de ses derniers jours, persécutée par l'amour de Dieu, qui l'attirait toujours plus à lui, on dirait, hein, avec une force irrésistible, bien qu'elle a supplié de ne pas trop la tourmenter. Mais c'est pas Dieu qui la tourmentait, j'en suis sûr. C'est les événements. Dieu, au cru de ses souffrances, l'a ouvert mystiquement l'expérience vive des mystères de Jésus et de la vie de l'Église, sans que son travail, cependant, ait eu à en souffrir. Et sous l'inspiration de Jésus, Sœur Marie a projeté aussi la formation du Carmel de Nazareth. Elle s'y est rendue en 1878 pour voir l'emplacement du futur monastère. Elle a fait aussi le pèlerinage de Aïn Karem, d'Emmaüs, du Mont Carmel, d'Abéline, son village natal, sans perdre un seul instant la présence de Dieu. Elle a fait cette confidence à un prêtre des Sacré-Cœur de Bétharam, le père Etchikoba, cette congrégation qu'elle a réussi à introduire en Terre Sainte. Sœur Marie est intervenue aussi de manière décisive pour l'approbation des constitutions de cette congrégation, si bien que les pères de Bétharam, qui sont très connus dans l'Église en Europe, reconnaissent en elle leur plus grande bienfaitrice. Ils la considèrent même comme la seconde fondatrice après Saint-Michel Carigoït. Elle dit « Je suis comme l'oiseau emprisonné dans sa cage. Ouvre-moi la porte afin que je prenne mon essor vers toi, disait-elle. Son désir, bien que très vif, la troublait, ne troublait pas, absolument pas la joie qu'elle avait, car elle était toujours unie à Dieu, toujours abandonnée à sa volonté. Elle a eu des troubles circulatoires qui se faisaient de plus en plus pesants du fait de la chaleur de l'été. Elle a passé des nuits d'insomnie à tousser, avec des crises terribles d'étouffement. Mais cependant, le matin, après sa rencontre avec Jésus dans l'Eucharistie, elle était ensuite sur le chantier, héroïquement fidèle à son poste d'espèce d'architecte, de surveillant des travaux. À la faiblesse qui l'empêchait presque de se tenir debout, mais c'est venu s'ajouter un martyr intérieur terrible qu'éprouve les saints, c'est l'absence de Dieu. Ce sentiment terrible d'être abandonné, comme Jésus au jardin de Gethsémani, comme Jésus sur la croix, hein. Ce sentiment humain chez Jésus, hein, c'est pas Dieu, c'est l'homme Jésus qui se sent abandonné. Elle gémissait d'ailleurs, « Où es-tu, Seigneur ?» Mais elle demeurait ferme pour l'Église et pour le monde, à son poste de travail. Elle n'y a pas manqué un seul jour. Et le 22 août 1878, à 32 ans, alors qu'elle transportait deux lourds récipients d'eau fraîche, elle est tombée, s'est fracturée gravement un bras. Et elle a dit, « Je vais mourir. » Elle ressentait d'atroces douleurs. La grande chaleur rendait ça encore plus terrible, et des brûlures, des incisions n'ont rien arrêté de toute la gangrène qui s'est introduite. Elle brûlait de soif, et surtout de la soif du Seigneur. Et dans la nuit du 26 août, on l'entendit soupirer en murmurant le psaume 41, ce très beau psaume qui est souvent chanté chez les protestants. J'aime bien au culte protestant quand j'y vais chanter avec nos frères protestants, « Comme le cerf gémit après l'eau, ainsi mon âme a soif de toi, mon Dieu. » Vers 5 heures, le 26 août, tout de suite après l'Angélus, elle a ajouté à la dernière prière qu'on lui a suggérée, qui était « Mon Jésus miséricordieux », elle a ajouté « Oh oui, miséricorde ». En somme, elle est morte dans la conviction de cet amour souverain de Dieu pour chacun d'entre nous. Elle a expiré tout doucement. Marie de Jésus crucifié, c'est la première des filles de la Terre Sainte, après les grandes figures des premiers siècles chrétiens, à recevoir l'honneur des autels. Il y a eu des saints, mais elle, c'est la première femme. Avec la simplicité des petits, elle s'est ouverte, en somme, à l'action de l'Esprit-Saint en elle. Elle a compris de manière extraordinaire la mission de sanctification, d'unité, de paix dans l'Église. L'Esprit-Saint l'a conduit à un sens profond de l'Église. Et dans ses derniers jours de souffrance, elle gémissait ce qui est très beau et qu'on devrait dire avec elle, « Ô Église, ma mère, je t'aime. » Quand une mère souffre, disait-elle, tous les enfants souffrent avec leur mère. Comme je voudrais donner mon sang pour l'Église. J'offre tout pour elle, pour l'union. Je vous rappelle qu'elle était de rite grec-catholique, melkite, sous la juridiction du patriarche, actuellement le patriarche Maximus V. C'est un message merveilleux que cette très simple petite galiléenne nous a donné. Et Jean-Paul II l'a déclarée bienheureuse en l'année jubilaire de la rédemption, le 13 novembre 1983. C'est le jour anniversaire de mon petit-fils, le 13 novembre. Ça me touche. D'accord avec sa béatitude, le patriarche melkite, la date de la béatification de Sœur Marie avait d'ailleurs été fixée au 13 novembre. Elle devait avoir lieu durant une liturgie byzantine, mais par manque de temps, on a renvoyé cette liturgie au début de 84, et elle a donc été béatifiée dans une liturgie latine. Le pape lui-même a présidé la messe avec la concélébration de sa béatitude, le patriarche Maximus V, que j'ai eu le plaisir d'ailleurs de recevoir un jour chez moi, que j'aime beaucoup. et de Mgr Maximos Saloum de Galilée, et de plusieurs autres prêtres et dignitaires grecs melkites, ou grecs catholiques. Et du côté latin, il y avait aussi sa béatitude le patriarche Giacomo Beltriti de Jérusalem, à l'époque, son éminence le cardinal Balestrero de Turin, que j'avais interviewé à Turin pour mon film sur le Saint-Suaire de Turin. Tout ça me rappelle tellement de merveilleux souvenirs de voir tous ces gens que j'ai eu la chance de connaître. Quelle chance j'ai eue! La cérémonie de béatification a commencé à 9h30 le matin dans la basilique Saint-Pierre. S'est achevée à 11h30. Et le pape a prononcé un discours admirable sur la sainteté. Il disait « Aujourd'hui, l'Église applique cette parole du psaume à Sœur Marie de Jésus crucifié, carmélite déchaussée, née dans la terre, qui vit se dérouler la vie de Jésus de Nazareth, terre située dans une région qui encore aujourd'hui ne cesse d'être au centre de très graves préoccupations et de douloureuses tensions. » Et il dit, « Cette année que l'Église vit comme jubilé extraordinaire de la rédemption, nous nous sommes réunis de nombreuses fois autour de figures qui ont gagné la gloire des autels. C'est un signe particulier de l'inépuisable puissance de la rédemption qui opère dans l'âme des serviteurs et servantes de Dieu, leur permettant de poursuivre avec ténacité sur la voie de la vocation à la sainteté. » Et ainsi donc, la vocation à la sainteté est le dessein éternel de Dieu à l'égard de l'homme, aujourd'hui à l'égard de notre sœur Marie de Jésus crucifié. La vocation à la sainteté est un fruit de la révélation et de la connaissance de l'Évangile, dit le pape. Et il avait terminé en disant, « La bienheureuse Marie est née en Galilée. C'est pourquoi nous voulons tourner en particulier notre pieuse pensée vers la terre, où Jésus a enseigné l'amour, où il est mort pour que l'humanité ait la réconciliation. Cette terre, comme je l'ai rappelé à d'autres occasions, voit depuis des décennies deux peuples s'opposant dans un antagonisme irréductible jusqu'à présent. Chacun d'eux a une histoire, une tradition, une manière de vivre qui semble bien rendre un accord difficile. » Il avait terminé, « Louons le Père avec le Christ, parce qu'il a révélé aux yeux de l'âme de Sœur Marie de Jésus crucifié le mystère de la vérité et de l'amour de son royaume. »